Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 30 septembre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, passe sanitaire obligatoire à partir d'aujourd'hui pour les 12-17 ans, alors que le gouvernement envisage de le prolonger pour tous au-delà du 15 novembre. Les clubs sportifs notamment craignent des défections, on va le voir Anaïs après les autres titres.
Ils ne rencontrent quasiment jamais personne, 500 000 seniors en situation de mort sociale, l'alerte ce matin des petits frères des pauvres. L'heure du jugement pour Nicolas Sarkozy, décision aujourd'hui dans l'affaire Big Malion. Des banques françaises épinglées pour leurs investissements dans les colonies israéliennes illégales. Et puis, en fin de journal, on verra comment le rugby travaille pour éviter les plaquages dangereux.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Oui, l'un des plus grands metteurs en scène contemporains. Il propose un Œdipe d'Enesco à l'Opéra Bastille. Le spectacle de l'année, paraît-il. Wajdi Mawad est notre invité à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. À 8h20, on se retrouve pour le grand entretien avec le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. J'ai nommé Christophe Castaner. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. Toujours moins de malades du Covid dans les hôpitaux, un taux de positivité bas, peut-être l'effet du pass sanitaire obligatoire depuis 2 mois pour les adultes, imposé aujourd'hui aux 12-17 ans, obligatoire pour aller au cinéma, au restaurant ou prendre le train, obligatoire aussi pour pratiquer une activité sportive et dans les clubs, on craint des défections. Dans la Creuse par exemple, un tiers des ados n'est pas complètement vacciné. Tristan Barraud s'est rendu au club de foot de l'Entente sportive guérétoise.
Au bord du terrain avec son t-shirt jaune fluo, Nino, 15 ans, s'échauffe sans s'être fait vacciner. Pour quand même venir à l'entraînement, il a trouvé une solution.
Faire des tests PCR, du coup on va se débrouiller pour faire ça. Je crois que j'ai compris que les tests PCR c'est gratuit aux mineurs, même à partir du 30 septembre. Soit sinon test à la pharmacie. Je préfère faire ça que de me faire vacciner, après c'est mon choix, puis voilà.
Enzo, 16 ans, lui ne s'est pas fait vacciner non plus. Il a prévu aussi de faire des tests avant chaque entraînement, mais si jamais ces tests devenaient payants pour les mineurs, fini le club de foot.
Je ferai rien pendant un certain temps, peu importe le temps qu'il faudra.
T'es prêt à rien faire ?
Non, mais ça se fera avec l'habitude. Donc, c'est-à-dire s'entraîner à la maison, garder quand même ses compétences. Parce que moi, pour moi, la vie, elle est bien faite et le vaccin, c'est pas ce qu'il y a dedans.
Luc Davaillon est leur entraîneur. Il préfère rester optimiste quant à l'éventuel effritement de ses effectifs.
On ne l'espère pas parce qu'on a déjà perdu pas mal de licenciés, hein, comme la majorité des associations sportives en France. Pour avoir côtoyé beaucoup les jeunes là, depuis la reprise, ils sont vraiment très contents et même les familles sont très contentes que la pratique ait repris de façon plus normale, on va dire. Donc, ça m'étonnerait qu'une majorité se disent demain on vient pas parce qu'il y a ça quoi.
L'entraîneur qui l'assure chez les majeurs depuis le début de l'année, tous se sont fait vacciner pour retrouver le terrain.
Tristan Barraud, France Bleu Creuse, le pass sanitaire c'est un test négatif, un certificat de rétablissement ou un certificat de vaccination. Depuis juin, les ados ont bien rattrapé leurs aînés. Même si la vaccination des mineurs fait l'objet de débats scientifiques, la couverture des 12-17 ans est de 71%. Et puis dans la Loire, des collégiens de 7 établissements, entre autres, ont été vaccinés avec des doses périmé, information de nos confrères de France Bleu, 250 personnes au total. Pas de crainte pour la santé selon les autorités, mais il faudra faire une nouvelle injection. Au 30 septembre, c'est aussi la fin du fonds de solidarité pour les secteurs très aidés comme l'hôtellerie, restauration ou l'événementiel. Les démarches vont se compliquer pour continuer à toucher l'argent de l'État. Explication à 7h30. Se remettre du Covid financièrement, s'en remettre socialement aussi. L'alerte des petits frères des pauvres qui publie aujourd'hui leur baromètre. 1,5 million de plus de 60 ans sont en situation de mort sociale. C'est 77% de plus qu'il y a 4 ans. Alors les bénévoles de l'association rendent visite aux plus isolés. Le reportage à Paris d'Alice Cachaner.
C'est avec impatience que Dominique ouvre la porte à Julien, le bénévole qui l'accompagne depuis 2 ans.
Un café.
Hormis les rendez-vous médicaux, cet homme de 63 ans ne voit pas grand monde. Peu de famille, peu d'amis. Alors les visites de Julien, c'est un peu de couleur dans son quotidien monotone.
C'est agréable de voir du monde comme un peu, d'avoir une compagnie, c'est important. Comme un ami maintenant, puisque si j'ai un problème, je peux l'appeler, je sais qu'il est toujours disponible. Donc on joue au Rubik's Cube, on fait des blind tests, on discute.
On s'amuse surtout, c'est ça qui est important, c'est de partager des bons moments. Autour de la musique, ici, ça a été vraiment un des premiers trucs et le jeu.
Ça fait des activités quand même.
Les situations de mort sociale et d'isolement sont de plus en plus nombreuses, souligne le dernier rapport des petits frères des pauvres. C'est en partie dû à la crise sanitaire. mais pas seulement.
La plus grande des explications, c'est la transition démographique.
Yann Lanier, délégué général de l'association.
Les générations issues du baby-boom commencent à arriver massivement dans l'âge et nous avons doublé à cela une augmentation de l'espérance de vie. Notre société doit se mettre en ordre de marche pour faire face à une société de la longévité.
L'association appelle également chaque citoyen à avoir des gestes envers les personnes isolées de leur entourage.
Le reportage d'Alice Cachaner.
Il est 7h05, une nouvelle fois, Anaïs, l'heure du jugement pour Nicolas Sarkozy.
L'ex-président déjà condamné à un an de prison ferme dans l'affaire des écoutes, il a fait appel, attend aujourd'hui la décision concernant l'affaire Big Malion, ce système de fausses factures pour camoufler l'explosion des dépenses électorales de 2012, quasiment le double du plafond légal. Lors du procès avant l'été, le parquet avait requis 6 mois ferme pour financement illégal de campagne. Laurélie Carrive.
12 mois de prison, dont la moitié assortie de sursis. Le ministère public a demandé au tribunal de frapper fort. Dans un réquisitoire à deux voix, les procureurs avaient tensé la désinvolture du candidat Sarkozy en 2012, son mépris des règles. Il avait reçu les notes d'alerte des experts comptables. Il savait que la campagne était dans le rouge. Et pourtant, les meetings ont continué, toujours plus grandioses. En face, l'avocate de l'ancien président a plaidé la relaxe. Nicolas Sarkozy n'a signé aucun devis, aucune facture. Faire des erreurs n'est pas un délit, a soutenu Maître Le Fur. Elle ne conteste pas la fraude, mais peut-être, dit-elle, que l'équipe de campagne s'est emballée et a devancer les désirs du président candidat. La peine requise contre l'ancien chef d'État est la plus lourde après celle demandée à l'encontre de Bastien Milot, ex-président de la société Big Malion, un an de prison ferme. Pour les 12 autres prévenus, cadres de l'UMP, membres de la campagne, experts comptables, responsables de Big Malion, les procureurs ont requis là de 18 mois à 4 ans de prison avec sursis.
Et la décision est attendue dans la matinée à 10h. La réforme de la justice des mineurs entre en application aujourd'hui. 10 ans de préparation pour ce nouveau code pénal qui bouleverse l'ordonnance de 1945 qui privilégie l'éducatif sur le répressif et permet à un mineur d'être jugé avec des critères liés à son âge. Le nouveau texte ne change pas ce principe, mais il intègre des mesures qui permettront de trancher plus vite. À l'étranger, toujours le droit international, mais malmené ici. Des ONG proche-orientales et européennes dénoncent dans un épais rapport publié hier des dizaines de banques accusées de financer des activités économiques dans les territoires palestiniens occupés. Fournir donc de l'oxygène économique au projet de colonisation israélienne illégal au regard du droit international. Notre correspondant à Jérusalem, Frédéric Mettezo.
BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Barclays, la Société Générale et le Crédit Agricole côté banque, un fonds souverain norvégien, le fonds suédois privé Investor AB et Banque Populaire Caisse d'Épargne côté fonds d'investissement. En 3 ans, 672 institutions ont financé des entreprises opérant à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. C'est illégal et immoral, selon Omar Shakir de Human Rights Watch.
Si vous opérez dans les colonies, peu importe votre activité, vous le faites sur une terre confisquée, volée aux Palestiniens. Et bien sûr, les Palestiniens ne peuvent pas entrer dans ces colonies. Vous bénéficiez de ressources, d'infrastructures, de services systématiquement refusés aux Palestiniens. Vous bénéficiez donc d'un système à deux vitesses.
Ces entreprises sont israéliennes, des banques, des stations-services, des opérateurs de télécom, américaines ou européennes, comme Airbnb, Volvo ou Siemens. Mais le rapport énumère aussi des firmes qui se sont retirées tout ou partie des territoires occupés. En mai 2019, le français Alstom avait renoncé à l'appel d'offres pour la deuxième ligne de tramway à Jérusalem après la mobilisation d'associations pro-palestiniennes. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Et ce matin à Jérusalem, la police israélienne a abattu une femme dans la vieille ville. Elle aurait tenté de poignarder des policiers près de la mosquée Al-Aqsa. L'état d'exception décrété dans toutes les prisons d'Équateur où la crise carcérale perdure. Nouveau massacre cette semaine dans la prison de Guayaquil, au moins une centaine de morts, résultat des affrontements de gangs rivaux liés au trafic de drogue.
En France, il est 7h09, J-2 avant le campus des Marcheurs, le week-end prochain à Avignon.
Oui, sans doute le coup d'envoi militant de la campagne présidentielle d'un Emmanuel Macron pas encore déclaré. Le Premier ministre sera présent. 1 million de tracts ont été tirés pour vanter le bilan du quinquennat intitulé 50+, mais Yael Gauz, le logo En Marche a disparu.
C'est un détail graphique, mais à forte teneur politique. La disparition des initiales EM en lettres majuscules italiques, suivie d'un point d'exclamation, qui était, depuis 2017, la signature en bas à droite des tracts ou des visuels de campagne. En marche, remplacée par majorité présidentielle, au même endroit, en tout petit, avec la même police de caractère. Car il ne s'agit plus de raisonner entre marcheurs, explique un cadre du mouvement. Au moment où gauche et droite se déchirent, nous voulons élargir. Depuis la rentrée, le MoDem et la REM cherchent la bonne formule pour se marier avant Noël, une maison commune ou une coopérative dans laquelle chacun garderait son siège, ses sous, ses militants, mais avec la même vitrine, le même logo, le sigle se discute en ce moment entre François Bayrou et Richard Ferrand. Cet abandon révèle aussi le besoin de tourner une page, celle d'une marque qui n'a pas brillé aux élections locales. L'étiquette En Marche n'est donc plus visible, mais la photo du président, elle, est omniprésente. C'est lui notre logo, dit-on à La République En Marche, né en 2016, mais déjà relooké pour 2022.
Et Christophe Castaner sera l'invité de France Inter à 8h20. La majorité est préoccupée par la flambée des prix de l'énergie. Jean Castex devrait faire des annonces ce soir aux 20h de TF1. Deux pistes à l'étude, une baisse des taxes et un gel temporaire des tarifs, précision à 8h. La proposition de loi sur la maltraitance animale arrive aujourd'hui au Sénat. La vente en ligne des animaux de compagnie doit être encadrée. Le ministre Julien Denormandie précise dans Le Parisien aujourd'hui en France quelques amendements, comme rendre les sites responsables de l'identification des animaux, sans quoi ils pourraient être pénalisés. Lui était autrefois l'un des oiseaux les plus majestueux d'Amérique, le pic à bec ivoire, noir et blanc, crête rouge, aperçu pour la dernière fois en 1944 en Louisiane. Les États-Unis viennent d'annoncer l'espèce définitivement éteinte, comme 22 autres. Le processus pour les sortir de la classification des espèces en danger a été lancé. 12 semaines de suspension, la sanction est tombée hier pour le rugbyman de Castres, Rino Pieterse, auteur d'un plaquage dangereux en top 14 il y a deux semaines. Fauchage en plein vol, épaule en avant d'une mine mêlée de Bordeaux-Bègles. Des gestes dangereux que la fédération de rugby s'efforce de faire disparaître. Winnie Claré s'est rendu dans un club amateur du Val-de-Marne où l'on teste une chasuble spéciale pour plaquer sans se blesser.
Entraînement à haute intensité pour les joueurs de l'Union des Bords-de-Marne avant le premier match de la saison. Tous les joueurs portent une chasuble blanche avec une grosse bande orange au niveau de la taille. Pour attirer le regard quand on vient plaquer l'adversaire, interdit de ceinturer plus haut chez les amateurs. Mathieu Scalabrino est le coach de l'équipe.
On s'est aperçu que la majorité des blessures en fait au rugby, elles étaient souvent chez le plaqueur et notamment sur une erreur en fait de placement de la tête.
Hugo, le doyen de l'UBM, confirme.
Oui, j'ai eu quelques blessures assez importantes, notamment la mâchoire, deux fois. Sur la fracture de la mâchoire, c'était sur une situation de plaquage où j'ai plaqué sur le mauvais genou et donc j'ai pris l'autre genou dans la tête.
Alors les chasubles avec leur code couleur lancé par la Fédération française ces dernières saisons ont une vraie utilité. Ça infuse sur tous les terrains selon le coach Mathieu Scalabrino. Il veut aussi limiter le danger en développant un jeu où l'on court plus, où l'on se fait plus de passes et surtout où l'on s'affronte moins.
Préconiser un rugby fait d'évitement et de ce qu'on peut appeler le French flair, je suis persuadé que c'est la bonne voie pour faire adhérer le maximum de gens, faire venir les gens dans les stades.
C'est en tout cas le chemin que prend le top 14 à l'image de son champion, le Stade Toulousain. Et c'est l'exemple que donnent depuis plusieurs années déjà les rugby women françaises.
Et encore un mot de football. Deuxième journée de Ligue des Champions et encore une déception pour Lille. Défaite 2-1 hier soir à Salzbourg.
Anaïs Feuga, merci. Le Zoom, c'est dans 3 minutes. Un an après la tempête, les sinistrés de la Vésubie ont bien du mal à abandonner leurs maisons inhabitables.